I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ground Control, le direct.
Littérature et bière glacée.
Grand Flore Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Flore Café par Hugues Robert.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver sur l'antenne du Grand Flore Café. Ce soir, on va démarrer en fait une petite série qui va nous emmener jusqu'en janvier sur un thème assez particulier, puisque la Roumanie est à l'honneur chez Grand Control pendant un mois quasiment, donc pendant toutes les fêtes et pendant la première quinzaine de janvier. Et du coup, on va, pendant les émissions qui viennent, parler de différents thèmes spécifiques de la littérature roumaine. Et donc ce soir, je voulais simplement vous faire partager quelques bases en fait sur cette littérature. Alors la littérature roumaine, officiellement, elle démarre en 1521 avec une chose qui s'appelle la lettre de Neaxu. Mais ça a peu d'intérêt pour nous en termes de littérature, c'est plus pour l'histoire de la langue, ça a une borne littéraire et linguistique, un peu comme les serments de Strasbourg en français. Je suis pas sûr que ce soit véritablement lisible, à part pour des exégètes et des chercheurs aujourd'hui. Le premier livre imprimé en roumain, c'est en 1559 et c'est un catéchisme. Mais on va ensuite faire un saut et partir directement dans la naissance proprement dite d'une littérature roumaine. Alors comme beaucoup de pays des Balkans, mais on peut aussi songer à l'Italie, la littérature nationale, la littérature roumaine, elle naît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Au moment où la domination ottomane en fait sur la péninsule commence à se relâcher, à flotter, et où il y a des élans nationaux et nationalistes. Donc ce qui est à l'honneur bien entendu au XIXe siècle, c'est comme partout en Europe la poésie. Le roman est quelque chose qui naît tardivement, au départ c'est plutôt de la chronique historique qui se romance peu à peu. Les grands poètes du XIXe qui sont toujours parmi les phares de la littérature roumaine aujourd'hui, c'est Ion Radulescu, Alecu Ruzzo, Vasile Alexandri, les romanciers, les nouvelliste, c'est Constantin Negruzzi, Nicolae Filimon et quelques autres. Il y a un cercle littéraire qui a une importance toute particulière à cette époque-là. C'est le cercle littéraire Junimea, puisqu'il va produire un cercle littéraire comme partout en Europe. Il y a une effervescence. La littérature se mêle à la philosophie, à la science politique. Les barrières entre les genres en fait sont assez perméables. Et la plupart des écrivains sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des polygraphes. Ils écrivent beaucoup de choses différentes. Et au sein de ce cercle littéraire, donc Junimea, on va voir émerger quatre figures de romanciers, de nouvellistes, mais qui font aussi de la poésie et qui encore aujourd'hui donc sont dans toutes les anthologies de la littérature roumaine, sont considérés comme les grands précurseurs du roman et de l'écriture. Donc c'est Mihai Eminescu, Ion Creanga, Ion Luca Caragiale et Ioan Slavici. Un peu plus tardivement, il y aura un autre cercle littéraire en Roumanie qui sera peut-être pas aussi important, mais également prolifique, c'est le cercle Literatorul, parce que c'est celui qui s'ouvrira le plus aux influences du symbolisme, et notamment aux influences françaises, avec son auteur phare qui est Ion Pilat. Donc, le 19e siècle roumain, c'est les fondations en fait d'une littérature, les grands genres, tout s'établit, c'est à peu près à la même époque que dans les pays voisins, en Bulgarie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie, dans les différentes parties de la Yougoslavie. En fait, on voit apparaître également ce roman national, cette poésie nationale, alors qui n'est pas nécessairement nationaliste, il ne faut pas non plus caricaturer, mais qui en tout cas reflète un sentiment autour de la langue roumaine, d'une appartenance, d'une création propre, se dégageant effectivement d'un point de l'histoire assez lourd. Le début du XXe siècle, là on va voir apparaître des auteurs qu'on connaît j'ose le dire, ailleurs qu'en Roumanie, puisque c'est à partir de là notamment que la connexion qui s'établit alors entre trois pays, la Roumanie a une connexion, et on va en reparler évidemment, forte avec la France, pour tout un tas de raisons. Il y a des raisons linguistiques, il y a des raisons culturelles au sens large, et des raisons aussi qui furent géopolitiques, hein, autour de avant et après la Première Guerre mondiale. Et l'autre pays, bien entendu, où il y a une proximité, pour des raisons voisines, en fait, avec la Roumanie, c'est l'Italie. Et donc les grands auteurs qui apparaissent au début du XXe siècle, mais qui vont produire pendant des dizaines d'années pour la plupart d'entre eux, il y en a beaucoup, donc je vais en mentionner juste quelques-uns parce qu'ils résonnent un peu particulièrement pour un public français notamment. Donc il y a Gala Galaxian, qui est un personnage assez étonnant, puisque c'est un ecclésiastique, mais c'est un ecclésiastique qui écrit de tout, qui écrit de la poésie, qui écrit des essais, qui écrit des nouvelles, qui écrit des contes, qui revisite des légendes en fait du passé. Donc quelqu'un d'extrêmement prolifique, et il se distinguera pour quelque chose qui n'est pas tout à fait en littérature, mais dans un climat, et on en reparlera à propos d'un autre personnage, dans un climat en Roumanie, comme dans beaucoup de pays d'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres, qui se caractérise par un antisémitisme qui ne se dément pas, hélas, Gala Galaxian sera le héros, O-S-E-A-U-T, justement de quelqu'un qui se refuse en fait à emboîter le pas aux tentations antisémites, et qui au contraire va se battre, et y compris jusqu'à la naissance d'Israël en 1948, pour protéger, pour éviter en fait tout ce qui s'adresse aux Juifs, évidemment avant la Première Guerre mondiale, mais surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Panayotis Strati est peut-être l'auteur roumain donc du début du XXe siècle qui est le plus connu, parce que Panayotis Strati, qui fut un compagnon de route précoce du Parti communiste roumain et du Parti communiste internationaliste, très tôt, un peu à la manière, si on veut, d'André Gide, suite à un voyage en fait en URSS, s'est mis tout à coup à dire ce qu'il voyait, et ce qu'il voyait évidemment ne plaisait pas au Parti communiste. Donc il a été ostracisé, alors tout en restant un fervent communiste, en tout cas il pouvait plus l'être aux côtés du PC de la Troisième Internationale. Il s'est donc exilé en France, où il est mort en 1935, mais entre-temps il a écrit des dizaines, alors un certain nombre de romans et des dizaines de nouvelles. C'est vraiment un magnifique nouvelliste, quelqu'un qui a été complètement enterré en fait pendant des dizaines d'années, et puis qui est ressorti, revenu au goût du jour, si l'on veut, à partir des années 1980-1990, après la chute du mur notamment, et qui aujourd'hui est totalement reconsidéré comme véritablement un grand écrivain, dans une palette qui va bien au-delà du roman social ou du roman historique. C'est quelqu'un qui est assez passionnant, et on trouve la plupart de ses textes aujourd'hui chez Gallimard, en folio notamment. Un autre auteur étonnant, qui est à peu près contemporain de Strati, qui est né 20 ans après, mais qui est mort à peu près à la même époque, donc jeune, c'est Max Bleicher. Max Bleicher aussi, c'est un grand oublié. Il n'a publié que deux romans de son vivant. Des romans qui aventurent dans l'irréalité immédiate et cœur cicatrisé, qui sont des romans qui pourraient être des sortes de condensés extrêmement puissants, extrêmement ramassés de choses qu'explora par exemple Thomas Mann dans La Montagne Magique. Il y a une forme de littérature, de lettres malades, mais qui sont faits avec une poésie et une acidité absolument fantastique. Et c'est un écrivain donc qui avait été lui aussi, après avoir eu une véritable heure de gloire, qui avait été oublié, et les jeunes éditions de L'Ogre, donc qu'on aime beaucoup, l'ont réédité, et Aventure dans l'irréalité immédiate, donc qui est un texte de 1936, il y a 3 ans, a ouvert en fait la première collection des éditions de L'Ogre, et c'est un texte magnifique, donc disponible dans toutes les bonnes librairies et évidemment chez Grand Control. Un autre auteur, une autrice qui se lit toujours, qui fut un personnage incroyable des années folles parisiennes, c'est Marthe Bibesco, la princesse Bibesco, et notamment son très célèbre Le Perroquet Vert en 1923, qui est un reflet romanesque en fait de cette vie parisienne Des années folles, qui est peut-être l'un des textes les plus emblématiques qui a été produit à cette époque-là. Alors ensuite, on peut en mentionner d'autres qui sont un petit peu, enfin, des contemporains hein, également. Donc le Benjamin Fondané, qui est un grand poète, donc qui roumain, qui encore aujourd'hui est emblématique d'une littérature juive d'Europe centrale et d'une poésie de l'exil tout à fait parlante en 2018. Isidore Isou, qui est l'inventeur, le promoteur, inlassable jusqu'à sa mort en 2007 du lettrisme, donc une école poétique et politique assez particulière, qui fut un personnage en Roumanie, bien entendu, mais en France, puisqu'il fut l'un des grands animateurs, jusqu'à sa mort ou presque, du quartier Beaubourg, où ses prêches restent quelque chose dans toutes les mémoires en fait, des gens qui fréquentaient le centre Georges Pompidou dans ces années-là. Grand poète également, Gerasim Louka, qui est décédé en 1994. Gerasim Louka, qui est un poète de la chair, un poète du corps, un poète de tout ce qui affleure, de tout ce qui se projette, qui est toujours absolument disponible, qui a été retraduit il y a quelques années et qui a été, dont plusieurs textes ont été mis en musique il y a maintenant 3 ou 4 ans, 5 ans, par Arthur H. Et c'est des textes, des expériences assez magnifiques, dans le même esprit que ce qu'Arthur H. avait fait, par exemple, avec la poésie antillaise, et notamment avec Aimé Césaire, mais pas uniquement. Gerasim Louka, c'est quelque chose qu'il faut lire, écouter, sans hésiter. Et puis on peut mentionner, bien entendu, toujours dans ce courant en fait, qui navigue entre la France et la Roumanie, Tristan Tzara, hein, puisqu'on oublie parfois que le père du dadaïsme est d'origine roumaine. Ensuite, on arrive sur les trois grandes figures, et souvent, quand vous demanderez à quelqu'un dans la rue ou dans une librairie qui n'est pas spécialisée en littérature roumaine, les trois premiers noms en fait qui viennent en parlant de littérature roumaine, ce sera sans doute ces trois-là. Donc, Émile Sioran, Mircea Eliade et Eugène Ionesco. Alors, Eugène Ionesco, il a commencé à écrire en roumain également, mais dès La cantatrice chauve en 1950, qui marque le début de sa canonisation de son vivant, donc l'un des plus grands dramaturges contemporains, enfin jusqu'à sa mort en 1994. Ionesco ensuite s'est mis à écrire en français. Et c'est vrai que c'est une particularité de beaucoup de ces grands écrivains roumains. On pense souvent à leur collègue tchèque Milan Kundera, quelqu'un qui a commencé à écrire en tchèque et puis qui ensuite, un beau jour, a basculé et définitivement dans le français. Et c'est souvent lui qu'on cite en premier, mais il ne faut pas oublier que c'est également le cas de Ionesco, de Sioran, pas en revanche de Mircea Eliade. Alors, Émile Sioran, lui aussi, donc, écrivait d'abord en roumain. C'est à partir du Précis de décomposition, en 1949, qu'il s'est mis à écrire directement en français. C'est lui, il ne faut pas du tout le réduire au pessimisme fondamental auquel on le réduit trop souvent. Émile Sioran développe une pensée complexe, une pensée imagée. Il est évidemment l'auteur et le créateur d'un nombre d'aphorismes et de syllogismes assez hallucinants, dont certains sont célèbres et ne sont pas du tout pessimiste, et notamment l'un des plus connus qui est « On n'habite pas un pays, on habite une langue », qui sert effectivement un peu de boussole à beaucoup d'écrivains et de poètes exilés, en fait, et qui doivent apprendre à vivre, en fait, dans une autre langue. C'est vrai que Précis de décomposition, Syllogisme de la perte de l'amertume en 52 ou De l'inconvénient d'être né en 73, les titres des grands recueils d'Émile Sioran ne plaident pas effectivement pour un optimisme démesuré, mais c'est des choses qui encore et toujours méritent d'être soigneusement lues et pesées. Alors, Mircea Eliade, c'est avant tout l'un des plus grands historiens des religions du XXe siècle. C'est aussi un romancier absolument non négligeable. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, et donc même si ça venait déjà avant sa mort en 1986, son comportement en fait, et notamment son engagement dans l'extrême droite roumaine pendant près de 30 ans en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, puis ensuite le fait qu'il n'a jamais trop renié un antisémitisme viscéral et un antisémitisme intellectuel très fort, même si sur le très tard il a essayé de le faire un petit peu oublier, font qu'aujourd'hui Mircea Eliade demeure un écrivain extrêmement controversé. Alors ça n'entache pas, évidemment, vieux débat, mais toute une partie de son travail, mais ça reste quelqu'un qui a repris l'odeur de soufre en fait qu'il avait dans les années 30, à l'époque où il était l'un des héros intellectuels de la garde de fer, donc de l'extrême droite roumaine. Après-guerre, on arrive donc à la période communiste. La période communiste, comme souvent, et ce n'est pas faire injure aux tâcherons du réalisme socialiste, elle ne produit pas des choses extraordinaires, à part quand les gens entrent en dissidence. Et c'est vrai que les noms que l'on retiendra le plus sont ceux, en fait, de dissidents. Alors, soit des dissidents ouverts et qui ensuite aboutissent rapidement à l'exil. Donc, évidemment, Paul Goma, né en 1935, Dumitru Tsepeneag, né en 1937, qui a créé un courant dans la littérature roumaine un peu à part entière, qui est l'onirisme. Alors, il est chez POL depuis 1984. Il écrit quasiment indifféremment, lui, dans les deux langues, en roumain ou en français. Et il continue, en fait, à pratiquer les deux langues depuis 1984. C'est une écriture absolument magnifique, effectivement, de quelque chose qui mélange soigneusement le rêve, la réalité, qui va chercher des résonances dans l'actualité et qui en fait tout autre chose. Puis il y a une autre personne qui, elle, est d'origine roumaine, mais ce n'est pas en Roumanie qu'elle a construit sa carrière, et ce n'est pas une dissidente, c'est quelqu'un, justement, une exception. C'est aussi le seul prix Nobel de littérature roumain, c'est Herta Müller, en fait, le prix Nobel 2009, mais qu'on connaît plus, effectivement, comme une Allemande, puisqu'elle écrit en langue allemande, et non pas en roumain. Alors, les auteurs contemporains, c'est ceux qu'il faut absolument découvrir sur cette littérature roumaine, et c'est ceux dont on vous parlera certainement le plus dans les semaines qui viennent au Grundflor Café. Donc, il y en a beaucoup. La Roumanie a été récemment à l'honneur du Salon du Livre, il y a quelques années. Donc, on les découvre de plus en plus. Ce qui est très intéressant dans cette littérature roumaine contemporaine, c'est que elle continue à être marquée par le poids de la dictature, même si on s'en dégage peu à peu. Donc l'écriture qui s'est développée chez ces auteurs qui ont fait trouver des ruses pour pouvoir produire, alors même que la dictature était encore en place, c'est une écriture à tiroir, c'est un sens de la dissimulation littéraire, c'est un usage évidemment de la farce satirique à plusieurs niveaux. C'est une littérature qui est ouverte, qui est curieuse, qui est beaucoup plus vaste et ramifiée qu'on ne le croit généralement en France. Et donc je vais aujourd'hui simplement vous proposer quelques noms en vous encourageant à les découvrir sans attendre, et puis on en parlera davantage dans les semaines qui viennent. Alors, certains ont été reconnus récemment. Bon, Norman Manea, qui est né en 1936, a eu en 2006 le prix Médicis étranger pour Le retour du hooligan. Alors, c'est un auteur roumain qui vit aux États-Unis, c'était un exilé. Dora Pavel, l'une des plus jeunes de toutes, qui est née à son troisième roman, Cecilia Stefanescu, qui est née en 1975. Uri Caru, qui a écrit le magnifique Ils arrivent les barbares en 2005, qui, en prétextant un roman historique complexe, subtil, autour de la Première Guerre mondiale en Roumanie, nous parle en réalité aussi bien de la dictature communiste que de la sortie de la dictature, avec tous les aléas en fait et les surprises pas toujours bonnes que ça a comporté. Florina Illis, qui a été récompensée également par de nombreux prix avec sa Croisade des enfants en 2005, alors qui est le troisième tome d'une trilogie, mais qui peut se lire absolument toute seule. Et je n'en dirai pas plus parce que le titre correspond finalement assez à ce qu'il y a dans le livre, mais sous une forme très rusée, très subtile. Dan Danila, peut-être le plus grand poète roumain contemporain. Roman Simpoesu, dont le Simeon l'Ascensorite en 2007 est sans doute le texte le plus connu, qui travestit en fait toute une réalité sociale contemporaine en Roumanie en faisant de son héros quelqu'un qui, pour mieux observer finalement les gens autour de lui, décide de s'installer à demeure dans un ascenseur, dans un immeuble, et c'est là en fait qu'il vit et qu'il consulte, qu'il observe tout ce qui se produit, et à partir de cette cabine d'ascenseur, en fait, c'est toute la société roumaine qui défile sous la plume de Roman Simpoesu, un roman magnifique. Alors, mon préféré, et celui-là je vous en reparlerai certainement, c'est peut-être le plus connu des grands écrivains contemporains roumains, c'est quelqu'un qui a été le principal animateur des cercles littéraires sous la dictature, qui justement, comme ça a été le cas dans d'autres pays balkaniques à l'époque communiste, servait de ferment intellectuel tout en affichant une réserve de bon aloi, mais qui, où il se passait en fait, et où il se fomentait sous couvert de littérature tout un tas de choses extrêmement subversives. Mais cela s'exprimant effectivement à travers la poésie, à travers une prose, une narration extrêmement alerte, extrêmement flamboyante, où le fantastique rôde toujours un peu à la lisière. Donc c'est Mircea Cărtărescu. Sa trilogie Orbitor de 1996, c'est peut-être, bien au-delà de la littérature en Roumanie, c'est peut-être l'un des plus beaux textes de littérature contemporaine, enfin des donc 20 dernières années. Et vraiment, il faut lire les trois tomes, hein, de la trilogie Orbitor. On revisite en fait une fausse autobiographie de la famille en fait de Mircea Cărtărescu, mais tout a été transposé dans un univers qui tient un peu de la farce tragique, où la littérature est proprement mise en boîte, avec des péripéties sans nom, mais ce n'est pas du tout un roman picaresque, c'est pas un personnage qui se promène, non, il y a une logique extrêmement forte sous-jacente, et qui nous emmène des années 50 jusqu'aux années 90, au pas de charge. C'est vraiment un roman voilà, dont je suis certain qu'on va en reparler dans les semaines qui viennent. Voilà, donc aujourd'hui c'était juste pour un petit aperçu en fait, hein, de cette littérature roumaine, qui est une littérature passionnante, vivante, toujours pas suffisamment connue en France, donc on va essayer d'en profiter en fait dans ces 4 semaines qui viennent. Voilà, à bientôt donc sur Radio Ground Control, à bientôt au Gondflor Café.
Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.